Europe 1,
9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bah oui, c'est à nous, vous m'avez entendu.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 16 de votre club de l'été et début d'une quatrième semaine qui sera cinématographique, musicale, théâtrale, enjouée aussi gourmande, curieuse, voire étonnante. Une quatrième semaine à l'image de ce club de l'été, ouvert de 9h à 11h tous les jours en direct, 2h de culture, de découverte patrimoniale et gastronomique. Mais impossible d'assurer cette mission sans ma gardienne et mon gardien du temple, Lise Pressac pour le tourisme et la culture et Olivier Pouls pour la gastronomie. Bonjour les amis.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Est-ce que le week-end fut bon?
Oui, il fut très bon.
Magnifique. Lise, j'ai bien cru que vous ne seriez pas là ce matin. Pardon Olivier, je vous ai coupé la parole.
Un bateau, un train, mais me voilà.
Voilà, vous avez bien fait de venir, vous n'allez pas le regretter.
Moi je suis en pleine forme, j'ai rechargé les batteries pour cette dernière semaine ensemble.
Ouais.
Et vu le programme, je me réjouis, figurez-vous.
Eh bien nous aussi, Lise, notre invité est originaire de Paris, il a grandi dans le quartier de Ménilmontant. Où partons-nous grâce à lui?
Eh bien, Ménilmontant.
Ah bah c'est original, dites-moi. Et on va y faire quoi?
On va se balader et voir un petit peu toutes les traces historiques dans ce quartier populaire de Paris.
Comment ça m'embêter comme ça, vous allez voir. Olivier, nous nous éloignons de ce quartier parisien pour nous rendre à quelques kilomètres de là, pour le côté gastronomie de l'émission.
À peine, je vous emmène sur les bords de Marne.
Oui.
Et je vais peut-être vous emmener danser d'ailleurs aussi. Manger et danser.
D'accord.
Ça vous va ?
Oui, je prends le manger, je ne suis pas sûre de prendre le danser.
Si, j'insiste, on fait un package.
On terminera l'émission avec vos recettes après les pique-niques, les salades et les barbecues. Quel est le thème de la semaine que nous débutons ?
Ben, un truc un peu estival, genre des tapas.
Ah, c'est parfait.
Ouais, c'est bien ça pour l'apéro.
Très bien.
Donc, on va se faire quelques tapas tout au long de la semaine. Et je pense que vous allez même me filer un petit coup de main.
C'est-à-dire que vous m'avez un peu obligé à travailler pendant le week-end, surtout.
Parce que voilà, on dit à Paris que vous auriez cuisiné ce week-end.
Ouais, on va voir. Mon immeuble n'est pas en feu, je vous rassure. 2 heures pour tout cela et encore plus 2 heures que nous espérons pleines de sourires et de rires. Vous êtes les bienvenus dans ce club de l'été. À vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité, comédien et réalisateur, un artiste dont le travail bouleverse souvent, nous donne à réfléchir très souvent. Cher invité, voici quelques sons qui illustrent votre parcours. C'est une infime partie de votre vie professionnelle.
J'embrasse très fort mes parents et j'espère que papa est fier du fiston.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents, touche pas ça, fais d'autres.
Je vous ai rencontré dans le quartier, ça a été le coup de foudre.
Bon, ça suffit, j'appelle mon mari.
Laissons cet imbécile de côté, voulez-vous?
Mon mari, un imbécile.
Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles.
Merde, Vatelin.
Montagnac.
Quelle bonne surprise.
Je sais très bien qu'à l'école, on apprend des tas de choses inutiles. L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein? Le français, on a toujours des lettres à écrire.
Bonjour Jaïl Lespère.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Jaïl Lespère, vous êtes acteur, réalisateur. Mercredi, vous serez à l'affiche de Mon Frère, un film de Julien Abraham, un film coup de cœur du club de l'été. En attendant de découvrir votre prochaine réalisation le 25 septembre, oui. L'adaptation d'une pièce de Feydeau, Le Dindon, avec notamment Danny Boone et Guillaume Gallienne. On va évidemment reparler de tout ça, Jaïl Lespère. Mais quels sons vous avez détectés dans vos oreilles, là?
C'était super parce que c'est... J'ai entendu déjà de la musique, je suis très attaché à la musique dans mes films.
Alors on a entendu celle notamment d'Ibrahim Malouf pour votre film Yves Saint-Laurent.
Oui. Ça a terminé sur la série Versailles.
Oui, donc vous avez réalisé les 2 premiers épisodes.
Oui. Donc j'ai eu la chance, disons, de faire ce qu'on appelle creative director, c'est-à-dire de créer toute l'esthétique, engager les équipes. C'était une école formidable d'engager les comédiens.
Très grosse production internationale,
ouais,
pour une
absolument.
Série de Canal+.
J'ai fait un peu comme un cuisinier, vous entendez pas de cuisine, c'est-à-dire j'ai fait un menu et puis je suis parti.
Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. On a également entendu votre voix au moment des Césars.
Ah oui.
Quand vous avez reçu le César Meilleur Espoir Masculin pour un film extraordinaire, Ressources Humaines,
ouais,
de Laurent Canté, que j'ai eu la chance de revoir ce week-end et que j'encourage tous les auditeurs à regarder parce que c'est encore d'actualité. Sur les classes sociales en France.
Oui, et puis c'est un film qui a bouleversé en France. Et à l'époque, on ne s'y attendait pas du tout. Enfin, le réalisateur, Laurent Canté, qui est un très grand réalisateur, et moi-même, On a présenté la première fois le film en Espagne, je me rappelle, Festival de Saint-Sébastien, en se disant « mais que vont comprendre les gens, nos problèmes sociaux, etc. » Et en fait, il y a une standing ovation, les gens étaient en larmes. Et j'ai eu cette chance extraordinaire de quasiment commencer par un chef-d'œuvre, en fait, comme comédien. Donc c'est une chance et un petit peu un cadeau empoisonné, parce que derrière...
Il y a la pression.
La pression, mais ça a tout lancé. Et puis c'était voilà, une rencontre avec... J'ai eu cette chance de travailler très, très jeune avec de très, très grands metteurs en scène, dont Laurent Canté, Alain René, Robert Guédiguian et puis d'autres. Et voilà, j'ai savouré cette chance... À l'époque, déjà, parce que j'ai toujours aimé le cinéma, donc je dois dire que j'avais les... Voilà, comme j'étais cinéphile, même très jeune, j'en prenais plein les mirettes et j'étais content d'être là.
Alors, vous aviez des modèles quand vous étiez jeune ?
Il y en a un qu'on a entendu dans,
ouais,
ces, dans ce portrait. Oui, Truffaut, ouais,
oui,
les 400 coups.
Les 400 coups, oui. Bah oui, parce que premier coup de foudre enfant de cinéma, c'est pas un Disney, c'est les 400 coups, parce que justement, moi, ce que j'ai, voilà, modèle, peut-être, en tout cas, un parmi d'autres, évidemment, mais absolu, Truffaut, parce que j'aime son cinéma dans la mesure où il parle au plus grand nombre, et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement sensible, et puis d'intemporel, et dans les 400 coups, moi, je sais ce qui m'avait beaucoup touché, c'était de voir un Paris qui n'existait plus, mais pourtant hyper vivant, et quasiment documentaire, à plein d'égards, donc voilà, ça m'a... Je me suis dit que c'était magnifique le cinéma pour ça.
On a entendu un extrait du Dindon, donc le film que vous avez réalisé, qui sortira le 25 septembre dans toutes les salles. Et puis on a entendu un petit bout de Fais pas ci, fais pas ça, le générique. C'était un petit clin d'œil.
À mon petit frère.
À votre petit frère, qui était le frère aîné de la famille menée par Guillaume de Tonquédec et Valérie Bonneton.
Ouais.
Et alors la ressemblance physique, pardon, on a dû vous le dire 50 000 fois, mais c'est incroyable. En plus, je trouve que plus vous vieillissez tous les deux et plus vous vous ressemblez.
Ouais, bah oui, c'est les gènes. Mais c'était très drôle parce que, ça, en fait, Fais pas ci, fais pas ça, il a commencé tout jeune. Et puis à un moment donné, à l'époque, ma banquière était folle amoureuse de lui. Donc tout le monde ne parlait que de lui.
Pour les crédits ou pas ?
Et là, on me l'a fait deux, trois fois, mais la meilleure qu'on m'ait fait, c'est de me dire on est vraiment fiers de votre grand-fils. Alors là, j'ai pris un sacré coup de vieux. Et c'était, mais j'ai, ouais, grande fierté. C'est formidable aussi. Il a fait ça pendant 10 ans. C'était une deuxième famille pour lui. Il s'est construit comme comédien là-dedans et puis comme être humain. Donc, je suis très fier de mon frère. C'est un mec génial. C'est mon meilleur pote.
Ah bah c'est génial d'entendre d'aussi beaux mots quand on parle de la famille. J'ai l'espère, on a pendant 2 heures l'occasion de reparler de tout ça. D'ailleurs, votre prénom signifie celui qui est grand, majestueux ou sublime.
Ouais. Bah ouais.
On va voir si c'est le cas.
Je sais pas, choisi, mais
il y en a qui naissent avec des beaux prénoms comme ça.
Je mets un peu la pression, mais vous venez de dire le mot choisir, enfin le verbe choisir, mais vous verrez, c'est aussi un peu le leitmotiv de toute cette émission. Avant, je vous propose une première pause musicale avec Mark Ronson et Miley Cyrus, un duo pour Nothing Break, Like a Heart sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me. We're drunk in love in Tennessee. And I hold it, we both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing
Mark Ronson et Miley Cyrus sur Europe 1. Dans un instant, avec notre invité Jaïd Lespère, nous parlons musique et cinéma.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h-11h.
Eva Rock.
Il est 9h22 sur Europe 1, nous sommes en direct pour votre rendez-vous estival de Club de l'été. Notre invité du jour est l'acteur et réalisateur Jaïd Lespère. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer évidemment vos messages et vos questions également. Jaïd Lespère, vous êtes donc à l'affiche de Mon frère, c'est un film de Julien Abraham, l'histoire de Teddy. Alors c'est un jeune sans histoire qui se retrouve dans un centre éducatif fermé, accusé du meurtre de son père violent. Et la violence, elle continue dans ce centre dans lequel vous, vous êtes éducateur. Un rôle fort pour un film dont le réalisme est surprenant, parfois suffocant, à se demander si on n'est pas en train de regarder un documentaire. Est-ce que c'est ce réalisme qui vous a poussé à accepter ce rôle ?
Oui, c'est surtout la confiance que j'avais absolue en Julien Abraham, le réalisateur. Qui avait fait un film formidable qui s'appelle La Cité Rose, et puis son engagement quasiment social et politique dans son cinéma. C'est quelqu'un qui entrevoit pas le cinéma tellement autrement. En tout cas, ce film, il y avait une vraie sincérité, et puis il y avait un scénario déjà avec le parcours de deux ados qui m'a touché. Voilà.
Je vous propose d'écouter un extrait où on vous entend d'ailleurs.
Faut avoir quel diplôme pour devenir éducateur ?
Bac moins 5.
Non, il y a 3 ans d'études après le bac. Quoi, tu veux faire éducateur ?
Non, jamais.
Ah ouais ?
Tu dois te faire des couilles en or, toi, en fait. L'argent, il doit rentrer.
Ah, tu continues pour l'argent ?
Ouais. Crève les sous, ces gens-là.
D'accord, c'est ça, ouais.
Dis-nous combien t'es payé ?
4 000, ouais. Au moins 4 000.
Ouais, t'as raison.
Ok. Attends, vous voulez savoir pourquoi je suis là, pour de vrai ?
Crois.
Vas-y.
Ouais, dis-nous.
Parce que je crois en vous. Non, sérieux. Et je crois même... Attends. Je crois même que vous êtes l'avenir de la France.
Tu l'écoutes, là ? Tu as entendu, là ? Je suis pas français.
T'es américain, t'es quoi ?
Parisien.
Il est parisien.
T'es parisien. Bah moi je suis quoi alors ?
Paresseux.
Elle est bonne.
Une des rares scènes où on a le sourire, mais je vous assure que pour le reste on l'a pas toujours, parce que c'est le monde de la violence dans ces centres éducatifs fermés. Vous partagez d'ailleurs plusieurs scènes avec Aïssa Maïga, qui joue une psychologue qui pratique la psychobox. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est ?
Bah c'est l'opportunité, disons, de passer par le corps. Pour que l'inconscient lâche prise et que la parole se libère, voilà. Donc c'est par le sport en l'occurrence, et par le lâcher prise, je dirais, que le corps parle, que l'inconscient se trahit, et que elle, en tant que psychologue, elle peut avancer dans le travail de reconstruction de ses gamins.
Vous avez tourné avec des acteurs et des comédiens non professionnels. Tous les jeunes y jouent sont absolument étonnants.
Ouais.
Est-ce que vous vous êtes revus il y a 20 ans quand vous tourniez avec Laurent Canté, Ressources humaines ?
Oui, il y a un peu de ça, c'est vrai. Il y a quelque chose de l'ordre du réalisme poussé à l'extrême, du néo-réalisme, je dirais, parce qu'il y a quand même un récit très structuré et un vrai travail d'acteur. Et d'ailleurs, à tel point que les deux acteurs principaux, qui sont donc MHD et Darren, MHD, il est chanteur, donc il avait l'habitude d'un peu des caméras, mais il n'est pas comédien. Et puis Darren, lui, avait fait un tout petit rôle dans un film. Ils ont réellement construit des personnages, c'est-à-dire qu'ils n'étaient absolument pas ce qu'on voit à l'écran. Donc il y a un vrai travail d'acteur derrière.
Ils sont incroyables tous les deux.
Mais toute la distribution, sincèrement, ouais. et même les acteurs professionnels. Je précise simplement que le rappeur AMHD, qui incarne le rôle principal, ne pourra pas assurer la promotion de ce film. Il est actuellement en détention provisoire, mis en examen dans une enquête sur une agression mortelle. Olivier Pouls.
Est-ce que justement ça vous a montré, ça vous a appris quelque chose de ce que c'est que cet univers de ces jeunes qui sont incarcérés ? Des jeunes qui sont évidemment un peu en marge de la société et qu'on essaye de reconstruire avec beaucoup de difficultés.
Alors moi j'ai toujours été très touché disons que je suis assez engagé dans des prisons, dès que je peux présenter des films j'y vais, participer à un festival, parce que je trouve ça, voilà, j'ai eu des gens dans ma famille qui ont fait de la prison, qui vivaient à la maison en sortant de la prison. Donc pour moi, voilà, derrière les barreaux, ça reste des êtres humains. Il faut pas les oublier, il faut les aider
un tant soit peu pour faciliter la sortie. Donc j'ai toujours été sensible à ce milieu-là. Mais évidemment, j'ai appris des choses. J'aurais aimé en apprendre davantage, d'ailleurs, parce que je voulais faire un stage, enfin, ne serait-ce que passer une journée avec des éducateurs en centre éducatif fermé. Mais malheureusement, voilà, l'administration pénitentiaire, c'est quelque chose de lourd. On n'a pas eu les autorisations à temps. Mais du coup, j'ai dû un peu improviser. Il y avait un vrai éducateur sur le plateau qui jouait aussi avec nous, un des éducateurs. Donc, je m'appuie un peu sur son expérience. Mais bien sûr, oui. Puis j'ai appris aussi beaucoup sur l'adolescence, quoi. Je me suis retrouvé à nouveau avec des ados. C'est ça qu'on se rend compte qu'on l'est plus du tout et que quand on a 15 sur le plateau tout le temps, voilà, tu te retrouves un peu éducateur devant la caméra et derrière.
Et derrière aussi. On va évidemment reparler de ce film et puis du Dindon, votre prochaine réalisation, j'allais l'espérer. Et puis vous allez nous faire partager aussi vos coups de cœur culturels. Nous en ferons de même. À tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend
avec le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le Club de l'été en présence de notre invité, le comédien et réalisateur Jalil Lesper. Jalil, comme pour tous les invités, nous vous avons demandé en amont de l'émission de nous dire quels étaient vos coups de cœur culturels. Alors, vous nous avez répondu Vasarely, comme notre invité de lundi dernier, je ne sais pas ce qui se passe.
Pourquoi Vasarely ? Bah parce que j'ai fait un film à Le Dindon qui se passe dans les années 60, en 65, mettons, et que pour mon générique, j'ai cherché comme ça beaucoup de références, et que Vasarely, et puis pour ma déco, etc., et que Vasarely en faisait partie. Si je parle de déco, on peut penser à Pierre Paulin, à Knoll, à tous ces designers. Et pour mon générique, j'ai été très inspiré par Jacques Demy, par Tati, etc. À un moment donné, il y avait aussi Vasarely qui traînait pas loin. Et du coup, pendant la post-production, j'en ai profité pour aller voir cette très jolie expo, d'ailleurs. Et voilà, donc c'était, j'ai eu un peu de temps pour y flâner deux, trois fois, pour m'inspirer un petit peu.
C'est important, un générique dans un film ? Ça se travaille vraiment, on le voit d'ailleurs.
Oui, alors là, sur celui-ci, c'était, en tout cas, sur ce film-là, Le Dindon, c'était important parce que c'était un hommage un peu à tout ce cinéma des années 60 et où il y avait des longs génériques, etc. Donc j'y tenais vraiment, ouais.
Et puis, ben, d'ailleurs, vous nous avez aussi parlé de quelqu'un qui a agrémenté nos génériques, mais aussi les films, Henri Mancini, compositeur de génie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on lui doit ça. De la Panthère Rose, mais aussi ça. Une des musiques de Diamants sur le canapé de Black Edwards, avec qui il avait fait déjà La Tour Eiffel et chanté aussi par Audrey Hepburn, ou encore la musique de ce film qui frôle le génie. Vous parliez de Jacques Tati, mais The Party avec Peter Sellers de Black Edwards, ça y ressemble, enfin, en bien des points. Extraordinaire film avec la musique de Henri Mancini. Vous êtes extrêmement sensible aux bandes originales. On a parlé d'Ibrahim Malouf tout à l'heure pour Yves Saint-Laurent que vous avez réalisé. M83 qui signait le générique de Versailles. Qu'est-ce qui vous plaît ? Vous pensez que c'est inexorablement lié ?
Pour moi, oui. En tout cas, je suis très sensible à la musique en général. Et puis, je suis peut-être très frustré de ne pas être musicien. Donc, je m'entoure de bons musiciens. C'était Ibrahim Malouf, là, ça a été Ludovic Bourse. Pour le Dindon.
À qui on doit être artiste.
Voilà, et évidemment, Mancini était une de nos références. Et The Party était, moi, une de mes références comme un film très français, Oscar, par exemple. Mais voilà, donc on travaille aussi comme ça. On s'accroche à deux, trois références qui sont bien senties, j'espère. En l'occurrence, celle-là, elle est forcément bien sentie parce que c'était un génie, quoi, Mancini.
Un génie total.
Et ce soir, il y a Le Bon, la Brute et Le Truand à la télé, évidemment, Ennio Morricone, l'autre grand génie.
Mais un de vos films fétiches aussi, c'était Il était une fois à l'Amérique, non, si je me trompe pas.
Oui, bien sûr.
C'est ça.
Bah oui, j'ai grandi avec ces références-là de grands films. Épique et un peu de garçon.
Quoi. Oui, alors à quoi ressemble votre playlist
aujourd'hui?
Oui.
Je vais regarder. Alors,
en direct. Vous pouvez suivre sur europe1.fr.
Ça bouge tout le temps. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai téléchargé Chance the Rapper, que j'aime beaucoup, son dernier album. L'Abi Cifre, qui est un très très bon musicien, mais alors je ne connaissais pas, j'ai entendu un morceau. Le dernier morceau de Bonobo aussi, qui est très bien. Voilà, DJ Snake que je connaissais pas, que j'ai découvert vachement.
L'album est extraordinaire.
Voilà, Et puis un vieux truc des années 90, alors je peux le même mettre en direct, ça s'appelle Sound of the Sea.
Ah, The Sound of Sea, c'est un groupe belge.
Ouais. Mais
confetti.
Non.
Les confettis, ouais.
C'est un groupe belge.
Ouais, c'est un groupe belge. C'est peut-être pas ce que la Belgique a produit de mieux musicalement parlant.
Mais c'est une petite madeleine de Proust.
Ah, moi, j'adorerais ça.
J'ai revu le clip, c'est drôle.
Oui, avec un grand.
Je vais couper la musique, pardon, parce que.
Oui.
Mais vous disiez la frustration de ne pas être musicien. Est-ce que vous êtes musicien quand même le dimanche ou pas du tout?
Pas du tout.
Pas du tout.
Alors, ouais, vraiment, je suis complètement nul.
J'ai une très mauvaise
vue. Ouais, mais c'est ça qui est super quand on fait des films comme réalisateur, c'est qu'on touche un peu à tout, on bidouille, voilà.
Alors, je voulais parler de musique aussi avec vous. C'est un peu mon coup de cœur. Et de vous conseiller une nouvelle voix. Elle s'appelle Charlotte Cardin, elle a 24 ans, elle est auteure-compositrice-interprète canadienne, elle est née à Montréal, elle a débuté sa carrière à 15 ans comme mannequin, alors elle a participé à un télécrochet qu'elle n'a pas gagné, en revanche, elle a gagné le droit de participer à l'album de Garou et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Elle est d'ailleurs venue sur le plateau de The Voice pour interpréter ce titre avec le chanteur, mais depuis elle a sorti deux mini-albums, Elton John parle d'elle comme un coup de cœur, notamment avec cette chanson « Man Girl ».
Je préfère celle-là à la précédente.
Oui, moi aussi. Parce que vous entendez mieux la voix et la puissance de la voix. Charlotte Cardin a été invitée au Francofolie cette année. Succès immense de la jeune femme. Alors, elle y aimait Nina Simone, Snoop Dogg, Radiohead et Céline Dion. Parce que quand on est québécoise, on aime Céline Dion, qu'elle imitait quand elle était petite. Et alors, c'est un éclectisme de goût qui se ressent en fait dans sa musique parce que sur ces deux, ce qu'on appelle EP, ce sont des mini-albums, elle va mélanger la pop, la soul, le jazz, le hip-hop. À mon avis, on va entendre parler de Charlotte Cardin dans les mois à venir. Elle est notre coup de cœur du jour. Et puis, un petit cadeau pour vous, Jalil. Vous avez des enfants, Jalil, je ne me trompe pas.
Oui.
Quel âge ils ont, vos enfants?
15, 11 et 8.
Ouais, alors 11 et 8, c'est un autre coup de cœur. C'est une collection qui est publiée chez Glénat Jeunesse, mais qui est à l'initiative d'une autre maison d'édition, les éditions Clochette, créée par Maureen Dor. C'est pour vos enfants. La collection s'appelle « Quand ça va, quand ça va pas ». C'est un numéro qui est consacré à l'alimentation. C'est le chef Thierry Marx et l'illustratrice Laure Monloubou qui ont choisi d'expliquer aux pioupiou quels sont les goûts principaux, les différentes familles d'aliments avec des recettes faciles à réaliser, mais aussi les problématiques liées à l'environnement, comment prendre soin de son corps quand on parle de nourriture. C'est drôle, c'est informatif, c'est pas du tout culpabilisant.
Et avec ça, ils mangent des courgettes, des haricots, tout ça.
Il y a aussi comment faire de la pâte à tartiner à la maison, le gâteau au chocolat, vous inquiétez pas. L'idée, en fait, c'est de les responsabiliser, de leur faire confiance. Ça s'appelle quand ça va pas chez Glénat Jeunesse. Commencez par râler, Olivier Pouls.
Il n'y a pas que
des légumes. Est-ce que vous cuisinez un peu? J'espère.
Très mal, je dois dire, mais parce que j'ai peu de temps, en fait. Et puis, et que je suis assez inhibé. Donc, à chaque fois que je tente un truc, je foire un peu. Donc, bon, bah voilà, je fais des basiques. Mais oui, je peux alimenter mes enfants.
Vous allez rester avec nous, Olivier. Il va vous donner des recettes hyper faciles à faire. Même moi, j'y arrive. Dans un instant, on continue de parcourir la liste de nos envies avec nos coups de cœur écran. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été, Eva Rock.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. C'est ça, le club de l'été d'Europe 1. Et comme tous les matins, nous avons un invité de marque, l'acteur et réalisateur Jalil Lespère à l'affiche du film de Julien Abraham, Mon frère, qui est à voir dès mercredi. Jalil, est-ce que vous regardez encore la télévision?
Assez peu, je dois dire, mais je regarde évidemment plus de séries maintenant que...
Oui, on disait, vous avez réalisé les deux premiers épisodes de l'excellente série Versailles. Mmh. Vous avez aussi joué dans Pigalle la nuit, aux côtés de Simon Abkarian, qui est venu dans ce club de l'été l'an dernier et qu'on embrasse. Ouais. Est-ce que vous en regardez énormément? Est-ce que vous arrivez à vous désintoxiquer des séries ou pas du tout?
Ce qui est bien avec les séries, c'est un peu comme les romans. Il y a des moments où on a plus de temps pour en lire et puis d'autres moins, mais on reprend, on arrête, on fait comme on veut.
Comment on séduit, Jalil Lespère? Je parle de séries, hein.
Oui, enfin, la question est un peu...
Non, hein,
enfin, assumez.
Non, mais j'assume rien du tout.
C'est ça qui est génial avec le cinéma, la série et l'art en général, c'est que chacun trouve des choses qui lui plaisent, d'autres qui lui plaisent moins. Et aujourd'hui, c'est tellement pléthorique l'œuvre et l'offre en série que chacun peut s'y retrouver. Donc, moi, j'aime des choses qui... soit me touchent par leur originalité, par leur émotion, par leur suspense, voilà.
Oui, d'ailleurs, vous nous avez dit avoir adoré Escape à Dannemora,
oui.
Qui est disponible sur MyCanal aujourd'hui. Le générique, c'est ça. Et là, on sent tout de suite qu'on n'est pas dans une comédie. Hein.
Oui.
J'ai déjà peur.
Alors, c'est une histoire vraie, en fait. Hein. C'est l'adaptation d'une histoire vraie. Deux meurtriers qui sont évadés donc, de la prison de Dannemora. On pense qu'ils ont bénéficié de l'aide d'une employée de la prison. C'est une chasse à l'homme incroyable qui a tenu en haleine les Américains, avec Benicio del Toro, Patricia Arquette, absolument incroyable, Paul Dano aussi. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette série particulièrement ?
J'ai été saisi par le cinéma qu'il y avait dedans, parce que c'est réalisé par Ben Stiller, qui est pour le coup un acteur et un réalisateur de comédie. Et c'est digne des meilleurs Eastwood, de ce cinéma classique américain avec lequel moi j'ai grandi et que j'adore. Et c'est un très grand film de 6 heures.
Voilà, 6 heures, c'est une mini-série en fait, 8 épisodes.
Et alors vous êtes addict, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé, vous êtes capable de vous coucher à 5 heures du matin pour avaler tous les épisodes, vous arrivez quand même à vous discipliner.
J'essaye de me discipliner, mais c'est dur quand on est pris, ouais, on est un peu pris. Mais c'est le problème de la série d'ailleurs, c'est qu'il faut avoir le temps.
Est-ce que vous avez des projets de télévision encore comme vous en avez eu ces dernières années ? En termes de réalisation ou de
en tant que comédien ? En ce moment, je fais une série, mais documentaire.
Série documentaire. Alors, c'est vous qui réalisez et c'est pour une chaîne ou c'est pour une plateforme ?
C'est pour une plateforme.
Ah, voilà. Et vous ne pouvez pas nous en dire plus ?
Non, parce que c'est confidentiel.
Si c'est pour Netflix ou Amazon, c'est plus que confidentiel. Vous avez le droit de rien dire généralement. On est d'accord ? Ça a révolutionné les plateformes, l'arrivée des plateformes dans votre milieu ?
Oui, bien sûr. Bah, comme dans la musique, le numérique a tout révolutionné. C'est-à-dire que, voilà. Mais c'est formidable parce qu'on vit un bouleversement complet de nos habitudes en tant que téléspectateur, que spectateur. Donc, et moi, comme je travaille dans les médias, je trouve que c'est une mini-révolution. Pour nous, on est obligé d'un peu travailler différemment et en même temps, il y a beaucoup plus de choix possibles. Aujourd'hui, on peut rêver d'un projet et puis se dire, tiens, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une plateforme, ça peut être la télévision, ça peut être le cinéma. Tout est possible.
Est-ce que ça veut dire aussi que les projets se montent plus facilement et donc plus rapidement qu'il y a quelques années où il fallait attendre énormément une possibilité, soit en télé, soit en cinéma ?
Moi, quand j'ai préparé mon premier film, j'ai tourné en même temps avec un très grand metteur en scène qui s'appelait Alain René. Et je lui ai dit, si je fais mon premier long métrage, c'est difficile vraiment. Et tout. Il m'a dit, moi, à l'époque, ça n'existait pas, les premiers longs métrages. On était 30 ans assistants et puis on faisait un film. Donc, oui, j'imagine que, évidemment, c'est plus simple qu'à cette époque et que, vu qu'il y a beaucoup d'offres, il y a la nécessité de faire du contenu,
bien
comme
sûr,
on dit.
Bien sûr.
Mais après, ça reste un job et voilà, il faut quand même essayer de. Voilà, c'est pas si simple non plus. Voilà.
Olivier Pouls.
On a l'impression que surtout aux États-Unis, c'est moins le cas en France, mais aux États-Unis, que finalement, ces plateformes et ces séries, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une créativité, une inventivité, une prise de risque que le cinéma américain n'a pratiquement plus.
Oui, ça a supplanté le cinéma indépendant. En fait, le cinéma indépendant américain est devenu, aujourd'hui, c'est les super-héros, c'est les gros films de studio surtout. Et c'est vrai que tous ces nouveaux talents, et même il y a Scorsese là, qui fait un film pour Netflix, viennent sur les séries parce que en effet, il y a
moins de contraintes.
Il y a moins de contraintes parce qu'en fait, dans la série, il y a quelque chose de beaucoup plus intime qu'un film où on doit garder des gens en salle. Une série, en fait, c'est un peu comme comme la lecture, comme un roman. C'est-à-dire que soit t'aimes, soit t'aimes pas. Donc soit tu suis, soit tu fermes et puis tu passes à un autre bouquin ou à une autre série. Donc il y a la nécessité d'aller chercher vraiment des histoires, des scénarios qui captent, qui retiennent. Et du coup, il y a une exigence d'écriture autre. Et aussi, on va chercher des sujets, on les creuse. Donc forcément, c'est passionnant à faire et souvent à regarder.
Avec un ton, avec une liberté de ton aussi, qu'on n'a pas forcément, notamment en télévision, dans le sur le réseau classique, en fait, hein, où il y a beaucoup de contraintes.
Et s'affranchir un peu du politiquement correct.
Exactement.
Qui est tellement, aujourd'hui
exactement.
Lourd.
Alors, les chaînes l'ont un peu compris, et je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais vous faire partager un coup de cœur pour un documentaire qui est diffusé demain soir sur Arte à 22h30, mais Arte a très bien compris cette mécanique des plateformes. Et en fait, le documentaire en question est déjà disponible sur arte.tv, vous pouvez le regarder dans les mois à venir. Le documentaire est intitulé « Elle a bien cherché ». J'ai pensé à vous, Jaïl Lespère, parce qu'il évoque, comme le film dans lequel vous jouez, mon frère, le système judiciaire français. C'est Laetitia Onona qui l'a réalisé. Elle a recueilli des témoignages de femmes victimes de viol. Alors, elle les a suivies dans tout leur parcours, depuis leur première déclaration devant les policiers jusqu'au procès. Petit extrait.
Vous abusez.
Oui, je me sentais mal et je ne savais pas quoi faire.
Avez-vous une attirance pour ce garçon ou est-ce que vous n'avez pas... faut pas prendre le mal. Hein. Nous, c'est toujours à charge et à décharge. Hein. On est obligé de poser des questions qui fâchent également. J'ai pas de raison de pas vous croire, mais est-ce que, à l'inverse, je suis bien obligé de vous le demander, est-ce que vous n'étiez pas attiré par ce garçon ?
Non.
Alors, seules 16 000 personnes sur les 200 000 victimes de viol ou de tentatives de viol en France franchissent les portes d'un commissariat. Et c'est le début d'un chemin vers le procès qui est très très long, très douloureux. Il faut répéter à l'infini son témoignage dans les moindres détails, lever les soupçons de mensonges, entendre les « elle a bien cherché », titre du documentaire, les examens médicaux, psychologiques. Et au bout de ce parcours du combattant, une plainte sur 10 arrive devant les assises. Un documentaire qui est très juste dans le ton, qui évite le côté larmoyant pour s'intéresser notamment à la notion de consentement. Comme vous venez un peu de l'entendre là, quand une soirée trop arrosée, quand une jupe trop courte laisse penser que tout est possible, hein, qu'au fond, il est facile de dire non aussi à l'agresseur. C'est tout ça qui est démonté dans ce documentaire qui s'appelle « Elle a bien cherché ». Et un documentaire dans lequel on mesure aussi les limites du système judiciaire, notamment dans le recueil de la parole des victimes. Je vous le conseille, c'est à voir sur Arte demain à 22h30 ou quand vous le voulez, sur le site arte.tv. On parlait du système judiciaire. Voilà, encore un exemple des difficultés auxquelles nous sommes confrontés aussi en tant que citoyens. Dans un instant, Jaïl Lespère, je vous présente notre humoriste. Il est un peu mythomane, vous allez voir. Il s'appelle Ben H. Mais avant, Patrick Bruel est sur Europe 1 avec Stand Up.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
Viens, on prendra des chemins que tu ne connais pas. On perd, on gagne, tu sais bien. La vie c'est ça, belle comme elle est, quand le ciel s'ouvre par endroits. Non, ne lâche pas, ne laisse pas décider pour toi. Stand up, stand up, stand up, où que tu sois. Stand up, stand up, stand up, encore une fois. Oui, y a des hauts, y a des bas, on en rira. Vis aussi fort que tu dois, mais vis aux éclats. Va où tu veux, où tu peux, où tu dois. Mais joue le jeu, joue comme je joue pour toi. Va où tu veux, où tu peux, où tu dois. Mais joue le jeu, joue comme je joue pour toi. Pour tenir bon, tenir tête les affronts, dans les tant pis, les tempêtes, tu peux crier ton nom. Stand up, stand up, stand up, où que tu sois. Stand up, stand up, stand up, encore une fois. Toi et moi, on pourrait vivre tout ça. Toi et moi, on a déjà tellement fait de pas, toi et moi. Mais moi, sans toi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là?
Patrick Bruel sur Europe 1. Dans un instant, c'est Ben H qui vient nous raconter son nouveau périple. A tout de suite.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Il est 9h51 sur Europe 1 et jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec notre invité, l'acteur et réalisateur Jaïl Lespère. Tout va bien jusqu'à présent, Jaïl ?
Très, très bien.
D'accord. Jalil, je vous présente Ben H. Ben H, je vous conseille de ne pas trop faire le malin devant Jalil, qui est beaucoup plus costaud que vous avez vu. Voilà. Et si vous allumez votre micro, c'est encore mieux. Vous appuyez sur le petit bouton rouge.
Ça y est, c'est bon, c'est fait.
Voilà. Vous êtes très calme. Non, je ne vous entends pas bien. Allez-y. Pour... Ah ben voilà. Bon. Voilà, là, je vous entends. Alors Ben H, vous avez pour mission de nous faire voyager cet été avec, avec vos cartes postales mythomanes. Mmh. Vous avez passé le week-end où encore ?
Eh bien, comme souvent dans cette émission, j'ai voulu partir à la découverte de l'endroit qui a vu naître et grandir notre invité. Parfois, ça peut permettre de faire découvrir des petits villages méconnus. Parfois, c'est vraiment l'occasion de mettre le doigt sur ces petits coins de France dont on ne parle pas assez dans les médias. Et dans le cas de Jalil Lesper, enfilez vos bottes et prenez votre GPS, car notre invité est né dans le petit village méconnu et bucolique dont on ne parle pas assez dans les médias, Paris.
Ouais, effectivement, c'est pas hyper des paysans comme carte postale, quoi. Ouais.
Pas terrible, et c'est aussi ce que je me suis dit, Eva, et puis j'ai pensé au mec qui n'a jamais vu ou entendu quoi que ce soit sur Paris, vraiment rien, ça doit bien exister. Un mec a grandi dans le fin fond des Pyrénées, par exemple, c'est
vraiment
un exemple.
Nous fâchez pas, oui, nous fâchez pas avec...
Vraiment un tout petit exemple, ça pourrait être partout ailleurs, dans un petit chalet au milieu de nulle part, le mec qui se lave dans une rivière, qui se nourrit uniquement des écureuils qu'il chasse et qui possède trois chèvres, une pour le lait, une pour le fromage et une troisième pour l'amour. Ce type dont le seul contact avec notre civilisation se résume au passage du Tour de France devant son champ une fois tous les 10 ans. Et bien pour ce mec, je me suis dit que cette carte postale mythomane de Paris sera dépaysante, voire peut-être attirante, bien que pour des raisons sanitaires et pratiques, il sera difficile pour cet homme de venir visiter le musée du Louvre avec biquette. Et puis plus généralement, on peut faire un sondage. En vérité, les gens connaissent très mal Paris. Tenez, va qualifier moi Paris en 3 mots, par exemple.
Je dirais un patrimoine magnifique, la grande cuisine, la mode.
Et ben voilà, donc absolument comme tout le monde. Ça, c'est typiquement ce que pense aussi la jeune Californienne qui rêve de notre capitale pour son voyage de noces. C'est exactement ce que se dit la jeune étudiante en journalisme lorsqu'elle quitte Nice pour venir chercher ses premières piges dans une rédaction parisienne.
Faites attention, vous allez déraper.
Personne en particulier. C'est aussi ce que se dit le petit chinois qui fabrique la petite tour Eiffel que vont acheter mes deux premiers exemples une fois arrivé dans la capitale. Mais la vraie réalité, Eva, c'est que c'est ce que pense le jeune chroniqueur drôlatique qui habite dans le 18e et qui pense que Paris, désormais, eh bien, c'est au glamour ce que les...
Vous avez un problème avec la suite de votre vanne, là, j'ai l'impression.
Mais à l'heure où je vous parle, ma vanne, elle est comme Paris, encore en travaux et pas du tout accessible. C'est vrai, c'est l'enfer niveau circulation. Aujourd'hui, si tu veux réaliser le vieux fantasme de cinéma qui consiste à déambuler cheveux au vent sur les grands boulevards avec une femme sublime, oublie la décapotable. Tourne-toi à la limite vers la trottinette électrique. Avantage, tu auras les cheveux au vent, inconvénient à la différence de la décapotable. Peu de chance qu'une femme sublime monte avec
clair.
Toi.
Je ne sais pas si vous allez faire rêver votre ami des Pyrénées avec ce genre d'argument en même temps.
C'est vrai. Le mieux à Paris maintenant, c'est clairement de marcher. Ça, c'est un vrai argument positif, de belles balades qui permettent effectivement de découvrir le formidable patrimoine de la capitale, tout en respirant le temps d'une balade. Un bol d'air bien pur, évidemment. Un Tibétain, tu le descends de l'Himalaya, tu le mets sur le périph' parisien, il meurt d'une crise d'asthme en 12 minutes.
La ville bouge beaucoup quand même sur les questions de l'environnement. Soyez pas mesquin.
Mais c'est vrai, faut saluer ça. Mais malheureusement, c'est pas gagné. À côté de Paris, un pot d'échappement, c'est presque une chambre stérile encore. Mais vous avez raison, Eva, je dois donner envie et après tout, ma carte postale doit être mythomane, alors je me lance. Chers amis des Pyrénées d'ailleurs, venez à Paris parce que non, Paris ce n'est pas que ça. C'est aussi des gens qui font la gueule et puis des rats. Mais à part tout ça, c'est vrai, je le reconnais, Paris c'est vachement sympa. Merci de m'avoir écouté.
Merci Ben H, Jaïl l'espère, c'est pas que ça à Paris, on est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Il y a du vrai
quand même. C'est difficile de mentir.
Mais vous êtes un vrai Parisien, c'est rarissime.
Ouais, c'est vrai.
Vous avez grandi dans le quartier de Ménilmontant, où on va aller se balader. On aime beaucoup jouer avec les sens dans le club de l'été. Par exemple, si je vous demande une odeur à Ménilmontant, ce serait laquelle ? Ou une odeur de votre enfance, en l'occurrence.
Oui, pas l'odeur de Paris aujourd'hui.
Oui, pas forcément l'odeur des poubelles, mais...
Le Ménilmontant que moi j'ai connu, c'était vraiment le Ménilmontant de La Balance, le Ménilmontant de Black Micmac. C'est un Ménilmontant qui a beaucoup changé. Donc c'était un vieux Paris digne d'une photo de Doisneau, bien des égards. Et puis, moi, le premier choc que j'ai eu, justement, avec Paris, c'est que je venais de Noisy-le-Grand, qui était une ville nouvelle. À l'époque, c'était très bien d'habiter en banlieue, dans les villes nouvelles. Et quand je suis arrivé à Paris, le premier choc, il était olfactif. C'est que vraiment, l'odeur, ça sentait le vieux Paris, quoi. Donc, mais ça a bien changé. Maintenant, ce que j'aime beaucoup à Ménilmontant, c'est que c'est un quartier populaire, mais c'est aussi un quartier kabyle, et que je suis d'origine kabyle.
Par votre
et
maman.
Donc, pour moi, c'était les odeurs du ramadan, avec le couscous, la chorba.
La chorba qui est votre Madeleine de Proust, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est? Parce que tout le monde, malheureusement, ne connaît pas. Bah, il faut goûter une fois dans sa vie une chorba.
La chorba, c'est
une soupe. Cerveau,
c'est une soupe, le soupe du peuple. Quoi, c'est souvent celle à laquelle on casse le jeûne en Algérie. C'est pendant le ramadan, c'est une soupe à base de tomates, de pas mal de légumes, un peu de viande aussi, un peu d'agneau, du collier d'agneau, je pense. Et puis des petites pâtes très fines. Et c'est excellent.
C'est complet.
Et chaque famille a sa recette, évidemment, toujours. Comme chaque famille a sa recette de couscous.
Alors, on parlait de l'odeur de Ménilmontant. Et si vous devez retenir une image de votre enfance à Ménilmontant, ce serait laquelle ?
Celle des... Il y avait pas mal de terrains vagues à l'époque, parce que tout était en chantier. Donc, c'est vraiment une époque où on pouvait sortir, jouer dans les rues, faire des tennis contre les murs, entraîner, on allait de rue en rue, parce que selon les rues, les quartiers évoluaient. Il y avait le quartier de la Banane, il y avait les 140, il y avait plein de... Donc, c'était des grandes balades pour des enfants de 10 à 15 ans. Quoi.
Et vous qui êtes sensible à la musique et à Louis, donc, si vous deviez avoir un son de Ménilmontant, ce serait lequel ?
La chanson de Jacques de Trainé, ouais. Ménilmontant. Je ne vais pas la chanter, je chante très faux, mais elle est très très belle. Voilà,
on va essayer de vous la trouver pour en passer un petit bout, évidemment, parce qu'on va aller dans ce quartier de Ménilmontant avec vous, Lise Pressac. Je vous propose qu'on s'y rende dans quelques minutes, alors évidemment virtuellement, ou en tout cas radiophoniquement. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Et oui, c'est la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager des idées de sortie, de balade, quelques suggestions culinaires également et peut-être même des surprises. N'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1. Je suis idiote parce que quand je prépare une surprise, j'arrive pas à me maîtriser. On dirait une gamine de 3 ans.
Mais depuis
quoi.
Ce matin, elle nous tease un truc. Mais vous allez voir, il y a une surprise. Ouais. On est un peu fébrile avec lui. On se demande ce qui va nous arriver.
C'est surtout, Jalil Lesper qui se dit mais dans quel piège je suis tombée. Vous allez voir, tout va bien se passer, Jalil. Vous êtes notre invité ce matin et je rappelle que vous êtes à l'affiche d'un excellent film qui s'appelle Mon frère et qui est à voir mercredi. Lise Pressac, grâce à Jalil Lesper, on va partir à Ménilmontant.
On va aller se balader avec un guide.
C'est parfait. Et Olivier, vous nous proposez une balade typiquement parisienne aussi ce matin.
Oui, on va rester dans la région parisienne, mais je vais vous emmener, vous allez voir, sur les bords de Marne pour manger et danser.
Dans une guinguette.
Oui, et puis on aura aussi un petit vrai faux.
Bien sûr.
Et puis vous nous parlerez de votre week-end culinaire.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire l'intitulé du vrai faux ? Je suis sûre que ça va intéresser Jalil Lesper parce qu'on va parler
d'une épice. On va parler des épices, on va parler du cumin. Et on prétend que le cumin a de grandes vertus, et notamment celle d'aider à la digestion. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre du cumin dans ses plats ?
Vous allez être obligé d'attendre la fin de l'émission pour le savoir.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
Jalil Lesper, je vous embarque dans notre machine à remonter le temps, mais alors c'est uniquement en musique. Je ne suis pas sûre que les musiques que vous allez entendre vont faire plaisir à vos oreilles. Est-ce que vous savez, par exemple, quelle chanson...
Après The Sound of Sea,
oui, c'est pour ça. Quelle chanson tournait en boucle à la radio à l'été 1976, l'année de votre naissance ? Vous avez une idée ou pas ?
Alors là, non, aucune.
Alors c'était pas mal, c'était ça.
Jeanne,
exactement, Olivier Pouls, Porque Tevas. Ça a été son grand tube.
Je crois qu'elle n'a pas fait grand-chose.
Non, elle n'a pas fait grand-chose. Mais elle a un peu des origines belges, d'ailleurs.
Ah bon ?
Oui.
Elle ne chante pas vraiment belge.
Non, non, bien sûr que non.
Ah bon ?
Merci, Olivier. Alors, en 2000, sort l'excellent film de Laurent Canté, Ressources humaines, pour lequel vous remportez le César du meilleur espoir, Jalil Lesper. Est-ce que vous savez, sur les ondes, ce qu'on écoute à ce moment-là ?
Non plus, enfin j'ai plein de trucs, mais...
Alors, le titre de la chanson pourrait correspondre au film d'une façon ou d'une autre. La chanson, c'est Les Rois de Rhodes.
On l'a entendu, celle-ci.
C'est un extrait de la comédie musicale Roméo et Juliette. Ça vous branche, les comédies musicales ?
Ah ouais, j'adorerais en réaliser une, mais...
C'est vrai ?
Ouais.
Mais alors, sur scène ? En film.
Ouais.
Comme Damien Chazelle pour La La Land, notamment.
Ouais, comme plein de films qui sont formidables comédies musicales.
Mais... Vous pourriez prendre des cours de chant pour justement.
Je l'ai fait pour Alain René, c'était une opérette. J'ai chanté. Mon Dieu, le pauvre.
Mais alors, il en reste rien. Il en reste plus rien.
Ah si, vous pouvez le trouver bah, sur
non,
des
non,
sites.
Non, je sais pas. Votre talent de chanteur.
Surtout pas le matin.
Et alors d'ailleurs, vous mettez, vous réalisez l'adaptation de la pièce de Feydeau, Le Dindon. Est-ce que le théâtre ne vous a jamais attiré?
Non. Enfin, si, comme spectateur, mais j'ai jamais voulu jouer au théâtre comme comédien. J'ai mis en scène un petit peu une fois. Et puis, en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un de cinéma. C'est-à-dire, les plateaux de tournage sont ma réalité à moi, ma grammaire. Et puis voilà, ça me va très bien. Ça me remplit assez.
Et d'ailleurs, votre grammaire, c'était en 2011 quand vous réalisez Des Vents Contraires.
Oui.
L'adaptation du magnifique roman d'Olivier Adam. Et il y a une chanson qui inonde aussi les radios. Je pense. Enfin, bon, dis rien. Je vous ai vu, il se met ça, hein.
Non, j'ai rien dit.
Michael Miro, L'horloge tourne.
D'accord.
Voilà. Est-ce que vous avez peur du temps qui passe?
Ah oui.
C'est vrai?
Ouais, ça file quand même, non?
Oui, mais
c'est
enfin,
40 ans,
ouais,
ça m'a fait drôle.
Ah, c'est le passage des 40
ouais,
ans.
Ouais.
On dit que c'est pour, on dit que c'est 50 ans chez les hommes, vous avez 10 ans d'avance.
Ouais. Ah. Mais bon, c'est un peu. Anxieux, ouais, avec
le
temps
qui passe. Vous verrez, Eva, le passage des 40 ans, c'est quelque chose.
Oui, c'est ça. Faites le mal. Hein. J'espère, ne riez pas. J'ai bien compris que vous aviez compris que ça faisait bien longtemps que je les avais passés, les 40 ans.
Ah bon?
Bah, pff, allez.
Bon. Bah, t'es invité, tiens.
Ouais. Ah non, c'est vrai. On va vous laisser. On ne connaissait pas. C'était il y a bien longtemps. Allez, je vous propose de poursuivre nos pérégrinations culturelles. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Nous sommes toujours en direct, il est 10h10 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité, le comédien et réalisateur Jalil Lespère. Est-ce que tout va bien jusqu'à présent?
Très bien.
On va découvrir le quartier de Ménilmontant. Enfin, nous oui, mais vous connaissez tout ce dont on va parler, évidemment. Mais avant, on va écouter religieusement le journal de la culture de Lise Pressac. Et on débute par une bonne nouvelle pour les fans de la série, on en parlait tout à l'heure de série, La Servante Écarlate.
Oui, de Handmaid's Tale en version originale aura une saison 4. C'est ce qu'a annoncé ce week-end la plateforme de streaming Hulu. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une série qui se passe dans un futur très proche. Les États-Unis sont devenus une dictature religieuse où la fertilité est en berne. Les seules femmes encore capables d'avoir des enfants sont des esclaves sexuels au service des dirigeants de cette théocratie. C'est très sombre, hein, mais c'est très très bien. La série qui a remporté 11 Emmy Awards est actuellement dans sa troisième saison et se termine le 14 août aux États-Unis. Elle a en fait été adaptée du livre éponyme de Margaret Atwood, édité en 1985. Roman qui aura lui aussi bientôt une suite. On retrouvera l'héroïne 15 ans plus tard. Le livre paraîtra en anglais en septembre et en français en novembre.
Est-ce que vous avez vu cette formidable série?
Bien sûr.
Elle est incroyable.
Ah ouais,
d'accord,
c'est dingue.
Hein. Mais c'est un peu angoissant.
C'est difficile.
Ouais, ouais. C'est, j'avoue qu'en cours de saison 2, tu veux qu'elle s'en sorte quand même. Hein.
Et voilà. On va pas en dire plus. Lise, rien à voir, vous nous emmenez maintenant voir du street art à Biarritz. On en avait pas encore parlé de street art. Qu'est-ce que vous m'avez mis dans les oreilles, là?
Ouais, je sais pas, c'est Loïc qui...
D'accord.
Qui voilà. Le Colorama Street Art Festival investit une ancienne école rue d'Alsace à Biarritz. C'est 900 mètres carrés où s'exposent une trentaine d'artistes locaux, nationaux et internationaux. Ils ont été choisis par Grumps, figure du street art et du rap français, et directeur artistique de ce festival. Le thème de cette quatrième édition, c'est le corail. Alors, il y a de nombreux événements qui accompagnent le festival, qui a pour but vraiment d'offrir au grand public, aux familles, une porte d'entrée vers ce monde avec une expo aussi accessible que son prix d'entrée. 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants, c'est le Colorama Street Art Festival jusqu'au 10 août à Biarritz.
Ah oui, et corail, c'est la couleur,
c'est la couleur
qu'il faut décliner dans
voilà.
Les œuvres. D'accord, pardon, j'avais pas.
Vous vouliez mettre des coquillages,
oui,
et tout ça.
Oui, j'étais coquillage et crustacé, j'étais au bord de la mer. Enfin, on va écouter ben, justement de la musique à 7.
Oui, à partir de mercredi, rendez-vous au Théâtre de la Mer pour le festival Fiesta 7. Balogi et Calypso Rose ouvrent la première grande soirée à guichet fermé, malheureusement. Mais il y a d'autres très beaux concerts en perspective, puisque jeudi, vous pourrez voir sur scène la diva cubaine de 88 ans, Omara Portuondo, pour une dernière tournée avec le pianiste Roberto Fonseca.
Mais deux raisons d'aller à ce concert. Omara Portuondo, d'abord, j'ai eu la chance de l'avoir sur scène avec le Buena Vista Social Club. Elle est extraordinaire. Et c'était du temps où il y avait un petit pianiste qui s'appelle Roberto Fonseca et qui a bien grandi depuis, qui est extraordinaire. Allez voir ce duo, c'est
ouais,
formidable.
C'est incroyable.
Mais il
n'y
a
allez-y.
Pas de concert apéro alors aujourd'hui.
Ah bah non, je suis désolée,
attendez,
j'ai pas tous les jours. Mais en tout cas, une très belle programmation féminine avec vendredi la chanteuse Fouchelle Araman. Samedi, 5 chanteuses capverdiennes pour un hommage à l'inoubliable Cesare Evora.
Oh, ya, menina,
Le festival Fiesta 7 qui nous fait donc voyager, qui fera également un détour par l'Orient dimanche, par l'Argentine et Cuba lundi, pour finir en beauté mardi par de l'Afrobeat avec Femi Kuti en invité. Fiesta 7, c'est jusqu'au mardi 6 août au Théâtre de la Mer à 7.
Est-ce que ces musiques du monde vous inspirent, Jaïl l'espère? Est-ce que vous aimez ça?
Moi, j'entends des Fela Kuti, oui, bien sûr.
Oui.
J'adore l'Afrobeat.
Et les musiques africaines, c'est... on en parle beaucoup dans le Club de l'été depuis cet été, parce que partout dans les festivals...
Oui. On voyage beaucoup.
On voyage beaucoup. Jaïl, est-ce que vous avez le temps justement d'aller faire des expos, de lire, d'aller au ciné? Est-ce que c'est un temps que vous prenez pour vous cultiver? Est-ce que c'est important aussi pour votre inspiration?
Oui, ça l'est. Évidemment, on en manque toujours de temps.
Et oui.
Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on travaille pas mal. Donc, cinéma, oui... expo pas assez, et bouquin, malheureusement, je suis devenu Mister 100 pages, c'est-à-dire que je fais à peu près toutes les rentrées littéraires, dès que je vois un livre qui m'intéresse, mais je lis toujours de manière un peu égoïste, c'est-à-dire je me dis, tiens, si ça faisait un film, et tout, et puis quand
ah
je
oui,
me rends compte au bout de 100 pages que ça
ne
fait
sert
pas
rien,
un film, je passe au livre suivant parce que j'en ai toujours 2-3 dans la pile.
Mais alors, d'ailleurs, il faut quand même qu'on revienne là-dessus, parce que donc Fedo et l'adaptation de le dindon que vous sortez le 25 septembre, et l'adaptation d'une pièce de Fedo, j'ai retrouvé une citation de vous... Jaïl l'espère.
Oh.
Vous disiez, je pensais que ça allait être facile. Vous parliez de vent contraire, hein, l'adaptation du livre d'Olivier Adam. Je pensais que ça allait être facile et en fait, je me suis trompée. C'est un faux ami. L'écriture cinématographique, est tellement différente de celle d'un roman. Alors, soit vous aimez la difficulté, soit vous avez la mémoire courte et vous vous relancez dans ces histoires d'adaptation. Qu'est-ce qui vous a pris?
Non, mais c'est pas tant pour la facilité, par facilité, c'est plutôt parce que les auteurs, les écrivains et les dramaturges. Moi, je n'ai pas ce talent-là d'écriture et de trouver des textes profonds à raconter, structurés. Je suis complètement dyslexique à la base. Donc écrire, c'est toujours une difficulté au sens où je n'aime pas me retrouver seul devant un ordinateur. Donc, partir d'une base écrite, c'est toujours, pour moi, plus intéressant. Et puis, j'aime bien la contrainte. C'est-à-dire que j'aime bien faire des choses qui ne sont pas forcément celles que j'aurais fait instinctivement comme ça, même si ça part toujours d'une envie, hein, mais qui m'amènent toujours un peu ailleurs.
Et alors, la contrainte pour le dindon, c'était de réadapter ce récit de façon moderne, en fait, et de l'ancrer aussi dans notre société actuelle?
Oui, absolument. Et puis, entre Yves Saint-Laurent, la série Versailles ou Fedo, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je considère qu'on a une culture française formidable et que malheureusement, ou heureusement pour moi, on ne l'exploite pas tout le temps assez. Donc j'aime bien y puiser un peu d'inspiration, voire même la partager et la faire connaître du plus grand nombre.
Jaïl l'espère, vous parliez de cinéma, vous disiez que vous alliez encore au cinéma. Vous avez été nourri de cinéma depuis que vous êtes gamin.
Oui.
Vous alliez combien de fois au cinéma quand vous étiez enfant? Vous avez une idée?
Non. j'y étais encore hier soir, d'ailleurs. J'étais voir le film de Besson que je n'avais pas vu. J'habitais à Noisy-le-Grand et il se trouve que j'habitais en face du centre commercial et il y avait un cinéma. Donc on a inventé le multipass, je ne sais pas comment on dit, la carte. Ouais. À la journée, puisqu'on passait par derrière. On se faisait les films. Alors, comme j'y allais avec les plus grands de mon bâtiment, on allait voir des films et pas des dessins animés. Donc, j'allais voir les James Bond, les films de Belmondo. Enfin, un cinéma très populaire, comme ça. Mais j'ai toujours aimé le cinéma. Ouais. J'ai toujours été touché par les acteurs et par les histoires.
Oui, on a reçu un message du cinéma. Vous leur devez 12 585 euros avec des intérêts
francs,
pour les films vus non payés.
Faut pas le dire. La porte était ouverte, malencontreusement.
Je crois que c'est plus possible aujourd'hui. Hein.
Je pense que c'est plus difficile. Un peu 2-3 vigiles qui vous attendent. Avant de partir vers le quartier de Ménilmontant, je vous propose une parenthèse musicale avec un groupe que j'adore, REM, qui interprète Shiny Happy People.
Heures, le club de l'été sur Europe 1.
Oh,
chanson de 1991.
Voilà,
bim,
voilà.
REM sur Europe 1. Dans un instant, balade dans un quartier parisien qui mérite le détour, Ménilmontant.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et il est 10h23 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club et vous êtes les bienvenus. Vous le savez, tous les matins de 9h à 11h, on s'occupe de tout, de vous, avec des idées de balades, des astuces culinaires et puis une bonne dose de sourire, grâce notamment à notre invité du jour, le comédien et réalisateur Jalil Lesper. Jalil, grâce à vous, départ pour Ménilmontant, là où vous avez passé votre enfance et votre adolescence. Élise, on part dans le quartier directement.
Voilà, directement.
On a trouvé un guide en fait.
Exactement, hein. Il s'appelle Grégory Théier. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Est-ce vous êtes à Ménilmontant là, je le sens.
Oui, tout à fait, oui.
Ah, c'est vrai en plus, d'accord. Bon. Où est-ce que vous nous
emmenez? Pas en direct, pas sur place, mais juste à côté.
D'accord, magnifique. Où est-ce que vous nous emmenez sur les traces de quel lieu on va ce matin avec vous?
Alors en fait, je voudrais vous faire découvrir le Ménilmontant rural, parce qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui avec l'urbanisation, mais à l'origine c'était un hameau en plein milieu de la campagne.
Et il reste des traces de ce Paris rural en fait.
Oui, tout à fait en fait, parce que ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on est avant la Révolution, Ménilmontant c'est un petit hameau entre deux gros villages qui sont le village de Belleville et le village de Charonne. Et en fait de cette époque, il nous reste des regards. Donc ce sont des petits monuments qui en fait permettaient d'accéder à un aqueduc qui permettait d'alimenter Paris en eau. Et il nous reste également le pavillon carré de Baudouin, qui est une folie, c'est-à-dire une maison de plaisance où la riche bourgeoisie ou la riche aristocratie allait s'amuser en gros le week-end pour sortir de la capitale.
Oui, parce qu'il faut expliquer la situation géographique. On est en hauteur, c'est pour ça aussi que ce quartier a contribué à amener l'eau à Paris.
Voilà, tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à la Révolution, Paris s'arrêtait au niveau des boulevards, pour ceux qui connaissent, en gros, pour faire simple, la ligne 6 du métro et la ligne 2.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est assez drôle à imaginer.
Nation Charles de Gaulle et Porte Dauphine Nation.
Voilà, c'est ça. Et en fait, dès que vous passiez ça, vous étiez en pleine campagne. Donc, il faut imaginer des hameaux, des villages, il faut imaginer des champs. Et puis des demeures de villégiature, en fait, des maisons de week-end, comme on peut dire, qu'on appelle des folies. Donc on a par chance conservé une très belle folie juste à l'angle de la rue de Ménilmontant et de la rue des Pyrénées, en fait, qui s'appelle le pavillon carré de Baudouin, et oui, qui est une très jolie maison avec une colonnade, un peu à la façon d'un temple grec, il faut imaginer, parce qu'elle a été construite à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est tout à la mode de faire à la façon grecque et romaine ancienne. Et c'est assez extraordinaire de voir un tel bâtiment dans un quartier relativement moderne, en fait.
Vous connaissez ce bâtiment, Jalil Lesper?
Oui, parce que je ne voyais pas du tout... Bonjour.
Bonjour.
Je ne voyais pas du tout de quelle maison vous parliez. Et puis maintenant, je la vois, je la situe. Merci.
Il y a aussi une des plus grandes églises de Paris, l'église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant.
Tout à fait. Alors, on a tendance à pas y penser forcément, mais c'est vrai que c'est une des plus grandes, parce que si vous faites abstraction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est la quatrième plus grande église de Paris par sa longueur, parce qu'elle fait 97 mètres de long. Donc, vous avez Saint-Sulpice, la Madeleine et Saint-Eustache qui sont plus grandes, et après, vous avez Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, qui a été construite sous le Second Empire, et qui est connue pour deux choses. Déjà, c'est son escalier monumental, parce que c'est assez rare d'avoir une église avec un immense escalier comme ça qui y mène. Tout simplement, c'est à cause de la pente du terrain, parce que Ménilmontant, c'est une colline. Donc du coup, l'architecte qui s'appelait Antoine Héret à l'époque a été obligé de pallier à cette différence de niveau par ce grand escalier. Et elle est aussi connue pour son orgue, parce que c'est un des très beaux orgues de Cavaillé-Coll. C'est un de ses meilleurs même. Donc Cavaillé-Coll, qui a notamment travaillé, a fait en partie l'orgue de Notre-Dame de Paris, a également travaillé à l'église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant. Et c'est le seul orgue qui est en deux parties, en fait, ce qui est assez amusant. D'habitude, vous avez un orgue entier au niveau à l'arrière de la façade. Et ici, il a choisi de le faire en deux blocs, tout simplement pour laisser passer la corde des cloches, parce que c'est un clocher unique, en fait. Donc, c'est pour ça que vous avez un orgue en deux parties, ce qui est extrêmement rare.
Ah, c'est incroyable. Et alors, toutes ces histoires, Grégory Théier, vous les racontez, j'imagine, quand vous faites les visites du quartier avec des gens qui ne connaissent pas du tout ni Paris, ni Ménilmontant.
Voilà, tout à fait, dans le cadre des visites démo guidées des mots et des arts, en fait, on fait tout un ensemble, moi ou mes collègues, on fait tout un ensemble de visites pour faire découvrir notamment le 20e arrondissement qui est qui est une histoire très riche, hein, du passé rural jusqu'à son passé ouvrier, parce qu'il faut pas oublier que c'est devenu, après les révolutions, à partir de la monarchie de Juillet, du Second Empire, un quartier ouvrier et avec qui va finalement être absorbé par Paris. Et c'est assez amusant de découvrir ce passé rural et ce passé ouvrier qui se mélangent, plus les constructions modernes qui sont rajoutées par-dessus. C'est un quartier très, historiquement très riche, en fait.
Jalil Lespère, est-ce que vous connaissez bien votre quartier ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce quartier ? Parce que généralement, on ne connaît pas ce qui s'est passé à côté de chez nous.
Oui, en tout cas, de Ménilmontant, vous voulez
dire.
Oui, je sais, en l'occurrence, ça a été un bain de sang pendant la Commune, par exemple, la place Ménilmontant. Il y en a encore les stigmates, d'ailleurs, sur les murs du Père Lachaise. Enfin, donc, je sais que c'est un quartier très riche, bien sûr. Et c'est un quartier, d'ailleurs, qui est toujours assez investi par... des descendants des communards. Il y a beaucoup de gens d'extrême gauche qui s'y retrouvent encore aujourd'hui. Voilà.
Et alors, quand on écoutait Grégory Théillé, notamment nous raconter les folies, je ne connaissais pas ce mot pour un bâtiment. Moi, je voyais très bien un décor de film que vous pourriez réaliser, dans votre Ménilmontant à vous, par exemple.
Bah oui, j'adorerais adapter même un roman qui s'appelle Le Cri du Peuple. Mais c'est très cher, mais ça se passe entre autres à Ménilmontant.
Mais Grégory Théillé, vous voyez, on va vous faire embaucher comme conseiller pour historique auprès de Jalil Lespère.
Merci Grégory, et vous travaillez pour l'agence de médiation culturelle des mots et des arts. Merci beaucoup.
Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous ce matin. Grâce à vous. Voilà.
Voilà. Charles. Madame,
merci Loïc qui réalise cette émission depuis aujourd'hui.
J'ai laissé mon cœur.
Ça fait du
c'est
bien
là
aussi.
Toutes
les informations toutes les informations de tous les contenus qu'on évoque depuis ce matin sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Lise, vous nous postez tout ça sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier Pouls, côté gastronomie, vous avez choisi de nous embarquer dans un lieu étonnant. C'est un lieu qui est un peu figé dans le temps aussi. On entend des traînées là.
Oui,
on va donner rendez-vous où en fait ?
Et en fait, il y a un lien entre Ménilmontant et les guinguettes dont on va parler. Parce que figurez-vous que les premières guinguettes, en fait, elles n'apparaissent pas en bord de Marne ou en bord de Seine.
Ah bon ?
Elles apparaissent justement dans ce qui était à l'époque des, non pas des quartiers de Paris, mais des petits villages, et à Ménilmontant notamment.
Eh bien, on va découvrir toute cette histoire dans quelques instants. Rendez-vous tout de suite en direct sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
C'est la suite du Club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. C'est notre invité du jour, c'est le réalisateur et comédien Jalil Lespère. Jalil, est-ce que vous êtes gourmand ?
Oui.
Vous êtes clair. On a compris que votre Madeleine de Proust, elle avait des saveurs d'Afrique du Nord. À quoi ressemblent les repas dans la famille Lespère ? C'est encore les grands repas de famille ou pas ?
Oui, c'est à peu près, je dirais, un dimanche sur deux. Et c'est un mélange de saveurs françaises, algériennes, voilà.
Ah, c'est sympa, c'est bien.
Ah oui, il y a une richesse de cuisine, c'est une jonction qui se fait parfaitement bien.
Oui.
Hein.
Ouais.
Il y a beaucoup d'héritage de la cuisine algérienne
alors,
et cuisine française aussi.
Juste avant qu'on s'interrompe dans la discussion précédente, vous nous racontiez que les guinguettes, elles ne sont pas forcément nées au bord de la Marne ou de la Seine.
Non, elles sont nées dans ces villages qui étaient à l'époque non... situé en dehors de Paris, bien sûr, et qui était loin, hein, puisqu'on ne se déplaçait pas en RER. Et donc, les premières guinguettes, le mot viendrait de guinguet. Et le guinguet, c'était un petit vin blanc qu'on produisait en Ile-de-France. Il faut savoir qu'on produisait beaucoup de vin dans la région ici. Et puis après, l'expansion urbaine, Paris a avalé Ménilmontant, et ces guinguettes sont parties un petit peu plus loin. Elles sont parties notamment au bord de Marne ou en bord de Seine.
Et si on partait au bord de la Marne, justement ?
Écoutez, d'abord, je vous emmène, quand on parle de guinguettes, écoutez ça.
Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau.
Est-ce que vous avez reconnu la voix ?
Je dirais... j'ai un trou,
on connaît.
Je connais, c'est un acteur.
C'est un film de 1936, un magnifique film de Julien Duvivier.
Ah.
Et qui s'appelle La Belle Équipe. Et là, c'est Jean Gabin qui chante. C'est une magnifique histoire de trois copains qui jouent au loto, qui gagnent le gros lot et qui vont s'acheter une guinguette en bord de Marne et qui démarrent cette aventure.
C'est votre rêve, ça.
J'adore ce film. Bon, bah écoutez, je vous emmène tout de suite en bord de Marne et on va retrouver Jean-Yves Dupin, qui est le gérant d'une de ces guinguettes, qui est la guinguette de l'île du Martin-Pêcheur. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
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 Alors, comment est l'ambiance aujourd'hui au bord de Marne? C'est calme?
Ben, c'est très calme aujourd'hui parce que nous sommes lundi, mais le week-end a été très chaud.
Ouais. Parce que la guinguette, évidemment, c'est le samedi et c'est le dimanche.
Oui, c'est le week-end que l'on enregistre les pics de fréquentation, oui.
Et alors, par exemple, vous avez enregistré combien de personnes, combien de gens sont venus ce week-end chez vous?
Oh, sur le week-end, on peut dire environ 400.
400 personnes qui viennent danser et manger.
Voilà, il y en a qui viennent danser et manger, puis il y en a qui viennent uniquement danser, il y en a qui viennent aussi visiter le musée, en quelque sorte, ou bien juste se balader, quoi.
Alors, votre guinguette n'est pas une guinguette historique, elle a été créée en 1993, mais elle reprend tous les codes de ce qu'étaient les guinguettes, popularisées en fait au début du XXe siècle, au moment du dimanche congé, et puis des congés payés d'ailleurs.
Oui, tout à fait, on reprend tous les codes, mais en même temps, on s'adapte aussi à notre époque et aux besoins, notamment en matière de gastronomie, en matière de danse et tout. C'est sûr qu'on répond plus aux demandes des gens que dans le respect de la tradition.
Et donc, qu'est-ce qu'on mange?
Nous, on propose une carte relativement simple, traditionnelle, avec des plats tels que côte de bœuf, foie de veau, tête de veau, moule marinière, etc. On ne peut pas faire une carte trop fournie parce qu'il faut que ce soit vite servi.
Mais alors dites-moi quand même qu'il y a de la petite friture de poisson, parce que la guinguette, c'est quand même la friture de poisson.
Oui, friture d'éperlan même, d'ailleurs, on précise. Parce que pour nous, la vraie friture, c'est l'éperlan.
On est d'accord. Mais alors, vous me parliez que vous adaptiez à la clientèle d'aujourd'hui. Ne me dites pas que vous dansez sur de la techno quand même. Vous continuez à danser
Il y a un accordéon.
Il y a un accordéon.
Il y a toujours un accordéon.
C'est obligatoire.
Un accordéon. Et en fait, le fil rouge, c'est ça. L'accordéon, plus un répertoire musette, davantage le dimanche, parce que, et le samedi, c'est beaucoup plus jeune la clientèle, donc on réduit un petit peu le musette.
D'accord. On réduit le musette.
Jalil, ça vous plaît cette ambiance un peu décalée, des guinguettes? Vous y êtes allé déjà?
Non, jamais.
Ouais. Moi non plus, j'aimerais bien y aller.
Ah ben, je vous emmène.
Ouais, volontiers. Voilà. On mangera une petite friture et on dansera.
On ira manger des fritures de poisson, on ira danser, on ira écouter le son de l'accordéon.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Jean-Yves, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Merci infiniment, vous faites partie de l'équipe qui dirige la guinguette de l'île du Martin Pêcheur. D'ailleurs, si vous voulez nous parler des saveurs de votre enfance, de votre région natale...
C'est à Champigny-sur-Marne,
De votre région d'adoption, vous nous envoyez un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On sera ravis d'en parler. Olivier, comme l'an dernier, vous nous proposez de terminer toujours cette séquence avec un fact-checking culinaire. On passe en revue, en fait, Jalil l'espère, les vrais faux de notre culture gastronomique. Alors, l'affirmation du jour, c'est le cumin a des vertus digestives. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Alors, on en parlait vendredi ensemble, puisque vous m'aviez annoncé que vous alliez être en cuisine tout ce week-end et que vous alliez nous préparer une recette dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs, et que vous alliez utiliser du cumin.
Oui, exactement, et je l'ai fait.
Et vous m'avez dit, mais le cumin, c'est très très bon pour la santé, c'est très bon pour la digestion.
C'est Simon Abkarian qui nous l'a raconté l'an dernier. Donc moi, comme je crois tout ce que dit Simon Abkarian, si vous voulez...
Ouais, et ben moi, j'ai mis donc mon week-end à profit, non pas pour manger du cumin, encore que, mais pour vérifier, pour savoir si derrière ça, derrière cette affirmation, il y a une vérité. Ben oui, il y a une vérité.
Ah oui.
Le cumin, c'est non seulement très bon pour le tube digestif, pour la digestion, mais c'est également un anti-inflammatoire, un antalgique, un antidouleur, donc très bon notamment dans le cas d'inflammation et de rhumatisme. Donc n'hésitez pas à mettre du cumin dans vos préparations, c'est l'une des épices qui a le plus de vertus pour votre santé, avec le curcuma aussi, il ne faut pas confondre les deux.
Oui.
Mais le curcuma aussi est très bon, c'est un très bon anti-inflammatoire, donc n'hésitez pas, mettez du cumin dans vos préparations, c'est anti-ballonnement, ça aide votre digestion, ça soigne votre tube digestif. C'est parfait, vous avez bien fait d'en mettre beaucoup dans le
plat. Mais oui, quand vous faites une salade de pois chiches, par exemple, c'est bien de mettre du cumin, parce que ça vous aide à digérer.
Oui, alors le cumin, moi, il y a une manière dont je l'utilise, et que j'aime beaucoup ça, si vous aimez l'agneau, notamment au barbecue, vous frottez votre agneau, juste au préalable, vous le frottez bien avec du cumin, vous laissez bien s'imprégner, puis vous rôtissez l'agneau avec le cumin, ça donne une saveur extraordinaire. Agneau et cumin, ça marche très bien.
J'espère, je suis sûre que votre maman, elle en utilise beaucoup
du
cumin.
Kumun, on dit en arabe.
Kumun, c'est le mot arabe.
C'est de cumin, ouais.
D'accord.
Et on en met beaucoup, ouais.
Vous avez raison.
Ben il faut. Merci beaucoup, Olivier, pour ce vrai faux. Je vous propose de partir à la découverte de trois nouvelles destinations. C'est Lise Pressa qui va faire office de guide. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et à 10h40, on commence à parler de nourriture et on commence à mettre de la nourriture en studio. Ah, vous commencez déjà à manger, Jalil Lespère et Olivier Pouls. D'accord.
Ils aiment faire ça quand je suis en train de parler.
Voilà, c'est moi qui ai... Voilà, c'est pour entendre le bruit du... Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est
très,
bon ?
Très, très bon.
Ah, c'est très, très bon. C'est un petit caviar d'aubergine que j'ai concocté pour l'équipe et on va vous donner la recette dans quelques secondes.
Non, mais toutes mes félicitations, Eva.
Alors, pendant que vous mangez, avec Lise, on part pour trois destinations françaises. Jalil Lespère, en fait, Lise, elle nous propose tous les jours trois découvertes à partir d'une même thématique. Et ce matin, vous nous embarquez dans trois musées qui mettent à l'honneur l'artisanat.
Oui.
Et vous nous direz dans quelle destination vous avez envie de partir, Jalil. Nous débutons ce top 3 par le Musée international de la parfumerie de Grasse.
Oui, créé en 1989, ce musée se compose de deux lieux. Il y a un musée des civilisations situé dans le centre-ville de Grasse, le Musée international de la parfumerie, et un conservatoire des plantes à parfum qui est dans la plaine grassoise à Moinsartou, les jardins donc de ce musée. Grasse, c'est le berceau de la parfumerie de luxe dont la France a été l'initiatrice. Et ce musée retrace donc l'histoire des parfums, mais aussi des cosmétiques depuis 5000 ans. Plus de 50 000 objets composent la collection du musée, parmi lesquels des flacons égyptiens, grecs, romains. On y voit aussi le fameux coffret de voyage de Marie-Antoinette, car les parfums ont généré une importante production d'objets précieux dans des matériaux rares, de l'albâtre, de la faïence émaillée, la céramique, du verre, des métaux ouvragés. Ça, c'est Olivier Pouls qui prend des toasts. C'est cette incroyable collection que vous pourrez voir dans le musée, tandis que dans les jardins, vous pourrez découvrir et sentir jasmin, rose centifolia, tubéreuse, lavande, géranium, genêt et oranger. Ces précieuses matières premières de la parfumerie depuis des siècles. L'entrée au musée coûte 4 euros, tout comme l'entrée au jardin.
Est-ce que vous êtes sensible aux odeurs, Jalil Lespère, des parfums notamment ?
Oui, mais pas plus que ça.
vous avez le droit de me dire non, vous savez, dès que je vous pose une question. On continue le tour de France, Lise, avec des musées de l'artisanat avec Cholet.
Oui, où se trouve le musée des métiers de la chaussure. Dans cette ancienne usine, vous découvrirez une collection ahurissante de machines, parfois centenaires, qui fonctionnent toujours. Vous suivrez ainsi en direct toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'une chaussure et vous en apprendrez aussi davantage sur la fabrication artisanale à travers les métiers de sabotier et de cordonnier. La collection permanente du musée compte des centaines de chaussures classées par thème. Il y a les métiers, les sports, les pays ou encore les extravagantes.
Oui.
Et en ce moment, jusqu'à fin octobre, sont exposées les photos d'Hélène Cailleux, journaliste de Ouest France, qui, au cours des années 70 à 90, a immortalisé des dizaines d'ouvriers de la région nantaise et choletaise sur leur lieu de travail. Ce sont des portraits qui interrogent le lien entre l'ouvrier et sa machine. Le musée des métiers de la chaussure qui organise également tout l'été des ateliers pour les enfants pour qu'ils confectionnent eux-mêmes leurs chaussures. Il y a un atelier sandalette pour les 6-11 ans tous les mardis de juillet et août. C'est 4 euros par enfant. Un atelier mocassin pour les 8-13 ans tous les jeudis, sauf le 15 août.
Bouglant
4 euros par enfant. Ah, ça, c'est vous qui l'ajoutez ou pas, Olivier. Réservation obligatoire, l'entrée du musée. Elle coûte 4,50 € pour les adultes, c'est 2,50 € pour les enfants et c'est gratuit pour les moins de 8 ans.
Et en même temps, les 8-13 ans pour leur faire porter des mocassins.
Oui,
enfin, 8 ans,
faut
tu as encore un peu d'autorité, mais 13 ans, je pense qu'ils vous
le
mettent.
Le traumatisme
dans la...
qu'on a tous eu.
Ah, mais oui, avec les mocassins, même pour les filles. Hein. Enfin, direction Morteau dans le Haut-Doubs pour visiter le musée de l'horlogerie.
Oui, pas de la saucisse.
Non, pas de la saucisse, on en a déjà parlé la semaine dernière.
Non, il y a aussi des horloges à Morteau, pas que de la saucisse. Installé dans un château de la Renaissance, le musée de l'horlogerie présente une collection exceptionnelle d'horloges, de montres et de machines très rares. L'horlogerie apparaît en fait dans les montagnes du Jura au XVIIIe. Ce sont les paysans horlogers qui, pendant les rudes hivers, travaillaient pour les manufactures d'horlogerie. Alors, le musée s'intéresse autant aux différents outils de précision et aux grosses machines nécessaires à l'horlogerie qu'à la complexité du travail de l'horloger. La reconstitution d'un atelier familial avec des automates vous font ainsi voyager dans le temps au cœur des fermes du Jura. L'entrée au musée de l'horlogerie de Morteau coûte 6 euros pour les adultes. C'est gratuit jusqu'à 12 ans.
Jalil, vous prenez les chaussures à Cholet, les parfums à Grasse ou les horloges dans le Haut-Doubs.
Les horloges.
Ah, les horloges. Vous êtes un passionné de montres ?
J'aime bien, sans être ultra passionné, mais oui, j'aime bien.
J'adore les petites mécaniques. Ah, vous êtes un passionné de montres, Olivier ?
J'aime bien aussi.
Ouais. C'est un truc.
Et c'est vrai qu'il y avait un très grand savoir-faire, effectivement, dans le Jura, où il y avait, historiquement, avant que malheureusement beaucoup de ces maisons ne disparaissent et ne soient rachetées, notamment par des groupes internationaux, il y avait un vrai savoir-faire dans le Jura, oui, sur l'horlogerie.
Lise, après avoir visité des musées, on part en rando avec l'application du jour.
Oui, Visorando, c'est le nom de cette application qui vous donne des idées de randonnée en fonction du coin où vous vous trouvez. Voilà. Elle vous permet d'accéder aux cartes de la France entière, outre-mer compris, avec ou sans réseau, ça aussi c'est important,
oui.
Et de chercher une idée de randonnée parmi les plus de 10 600 sélectionnés en France par Visorando. Alors, l'application convient autant pour la randonnée pédestre, la randonnée VTT, à ski, en raquette ou même à cheval.
Ah, d'accord. Alors, à quoi ressemblent les vacances chez Jalil Lespère ? C'est camping, hôtel de luxe, maison familiale, la mer, la montagne. Qu'est-ce que vous faites ? Vous en revenez là ?
Ouais.
Vous avez bonne mine pendant que nous, on est blanc, mais blanc, c'est pas possible.
Ça arrive, Eva, ça arrive.
Oui, je sais.
Fin de semaine.
Moi, j'étais sur une île très loin.
Ah, vous étiez sur une île très loin. Parce que c'est plutôt la mer quand vous partez en vacances.
J'adore l'océan, oui. J'adore même la Méditerranée. Oui, je suis très sensible à l'air marin.
Ben vous avez bien raison. Vous allez retrouver toutes les références et contenus qu'on a évoqués avec Lise sur le site d'Europe 1. Si vous manque une information, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Évidemment, on vous répondra. On attend aussi vos cartes postales. On en a reçu une très sympa d'Alexandre Thibault. J'allais dire Thibault, mais c'est Alexandre Thibault. Il a 16 ans, qui nous a envoyé une magnifique carte postale d'un soleil couchant. Ne me demandez pas où c'est, parce qu'il a écrit un truc sur le, vous savez, sur le petit endroit.
Sur la légende.
Légende, donc je ne sais pas. Et voilà, il nous salue tous. Il est sous un soleil de plomb et nous écoute tous les matins. Ah non, si, c'est marqué depuis Marseillan, dans le héros.
Dans l'héros.
Mon frère. Enfin, bon, dans l'héros. Même pendant les vacances, c'est Europe 1 à fond, nous dit-il. Et je vous remercie pour ces deux heures quotidiennes de bonheur. Mais nous aussi, il a marqué 1000 fois avec un grand cœur. Nous aussi, on
vous
embrasse, Alexandre. Cœur. Non, c'est pour tout le monde, même vous, Olivier Pouls.
Oh, c'est sympa.
La preuve. Voilà. Si votre ventre gargouille, Jalil l'espère, ça ne va pas s'arranger. Encore que... quelques gourmandises pourraient donc débarquer dans ce studio. Et ça, c'est ce que j'avais prévu, ce que j'avais écrit sur mon papier, mais vous avez déjà goûté. Mais j'ai encore une surprise. Avant tout ça, dernière parenthèse musicale avec Florent Pagny, Rafale de vent sur Europe 1. C'est le titre de la chanson, hein, Rafale de vent.
J'en ai croisé des vies, j'en ai fait des saisons. J'ai traversé la nuit, j'ai filé mon blouson. Et pourtant, c'était là. J'en ai passé des lunes à questionner demain. J'en ai connu des filles qui n'y comprenaient rien. Et pourtant, c'était là, devant moi. J'avais oublié l'humeur d'un été. Et pourtant, c'est si bon de penser. D'herbe à fumer, quelques amis fidèles, une poignée de projets. Ça me va comme à toi. Je travaille à l'année pour ma liberté. Et pourtant, c'est si bon de penser.
Florent Pagny pour terminer ou presque ce club de l'été. Un club de l'été sans la recette d'Olivier Pouls, ce serait une faute de goût, surtout quand c'est moi qui cuisine. Et oui, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Bien dans son époque, bien dans son été.
Avec nous, vous êtes en bonne compagnie.
Que vous soyez en vacances, à la maison ou au travail,
on est là pour vous divertir, pour vous informer.
Oui, même l'été, on reste mobilisé. Sur le coup,
même si on prend, c'est vrai, un peu plus son temps.
C'est l'été, on respire, on se détend, mais on se pose quand même les bonnes questions.
On bouge, on cuisine,
on se balade,
on nourrit notre curiosité, on se raconte des histoires.
Et bien sûr, tout ça avec de la bonne musique.
On est bien sur Europe 1.
Au nord de la Norvège, le corps nu et mutilé d'une femme est retrouvé au bord d'une falaise. Quand l'inspectrice Sarah Geringen apprend l'identité de la victime, c'est un véritable choc. Une intrigue implacable à l'échelle mondiale. Découvrez Complot, le nouveau thriller de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket.
Cet été, pour 2 livres Pocket achetés, un cadeau offert, voire modalité en magasin.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Dernière séquence de cet Europe 1 Club de l'été consacré au comédien et réalisateur Jaïl Lespère. Jaïl, je suis désolée pour cette petite excitation dans le studio, mais on va tout vous expliquer. Il y a un personnage qui vient de s'installer devant vous, qui s'appelle Jean-Paul Veziano. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour, bonjour Europe 1.
Jean-Paul, c'est le fil rouge de notre Club de l'été.
C'est le fil rouge du Club de l'été depuis l'an dernier.
Quand une augmentation à demander, il m'appelle et puis chaque fois il est long.
Ça n'a pas trop marché l'an dernier, je dois vous dire. Hein.
Montrez-moi le patron.
Oui, on va l'appeler. Jean-Paul Veziano, il est boulanger dans le Vieil Antibes. C'est la meilleure pizza à dire que vous pouvez trouver dans le Sud-Est, Jaïl Lespère. Mmh. D'ailleurs, elle est à côté de vous et on va pouvoir en déguster. Qu'est-ce que vous faites dans ce studio, Jean-Paul Veziano? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous ennuyez à Antibes?
Non, écoutez, il fait chaud chez nous. On m'a dit qu'ici, il faisait froid, qu'il y avait du verglas.
Oui.
Et non, c'est faux. Hein, non. Je suis venu voir des amis sur une télé concurrente.
Oui.
Et avec des...
Non, c'est pas concurrent, parce que c'est une télé. Une radio, donc on n'est pas concurrent.
Voilà.
On se connaît en plus.
Des gens qui vous aiment bien en plus, les deux.
Et vous savez que Eva a besoin de sa ration de pisse à la bière chaque été. Vous êtes venu lui porter son...
Je l'ai amené en TGV exprès, pour pas que les olives bougent, les framboises bougent.
Parce qu'on avait une auditrice l'an dernier qui ne voulait pas mettre d'olives et elle demandait ce qu'on pouvait mettre à la place des olives. Et Jean-Paul s'est un peu énervé en disant « Mais vous n'avez qu'à vous mettre des framboises !» Merci d'être avec nous. Alors, vous voyez en vrai Olivier Pouls qui adore cuisiner.
Il est magnifique. Ouais.
Et il est beau. Hein.
Ah, il est beau.
Hein, voilà.
Ouais, c'est vrai.
Et Olivier, Olivier, cette semaine, vous entamez une nouvelle recette,
une nouvelle série de recettes.
Elles vont toutes tourner autour de ce thème. Bon, le morceau s'appelle Tapas, vous allez ça le voir.
Il n'y a pas de parole, c'est ça. Vous pourriez nous passer n'importe quoi,
oui,
en fait.
Il s'appelle vraiment Tapas, ce morceau, je vous assure.
Et alors, en plus, ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais même rien faire, parce que vous m'avez piqué ma chronique, en quelque sorte.
Vous m'avez obligé à cuisiner, surtout.
Vous m'avez dit vendredi, je vais faire un caviar d'aubergine.
Oui.
Donc, vous l'avez fait.
Je l'ai fait. Vous l'avez déjà mangé.
Je viens de le goûter.
Il est délicieux.
Avec Jaline, on l'a goûté.
Délicieux.
Tout le monde l'a goûté.
Même Jean-Paul Veziano l'a goûté.
Magnifique.
Donc, la recette, vous allez nous la donner, Eva.
C'est hyper facile. Vous prenez des aubergines, vous les mettez dans votre four bien chaud. Mais alors là, vous laissez. Hein. Moi, j'ai laissé quasiment 1h30 cuire. Donc, ça cloque.
Il faut que l'aubergine soit vraiment
l'aubergine,
cuite à l'intérieur.
L'aubergine, elle cloque un peu, mais à l'intérieur, ça va commencer à fondre. Vous les coupez en deux, vous prenez la chair avec une cuillère. Que vous écrasez.
Ouais.
Moi, je l'ai passé un tout petit peu au mixeur parce qu'il y avait des morceaux qui étaient trop gros.
Mais pas trop mixé quand
pas
même.
Trop,
c'est bien parce
mixé,
qu'il faut garder la texture.
Qu'il faut garder la texture, exactement. Et là, vous mettez du citron. D'abord, ça évite de noircir et en plus, c'est quand même meilleur au goût. Du
c'est
cumin.
C'est plus rien à dire. Hein.
Ouais, du cumin.
Alors, l'excellente idée du cumin. C'est vrai que moi, je ne fais pas forcément toujours au cumin, mais c'est une excellente idée parce que ça marche très, très bien avec l'aubergine.
Ouais. Et après, alors, j'en ai pris un petit bol que j'ai mis à côté où j'ai mis de l'ail parce que je sais que vous ne digérez pas, mon cher Olivier.
Tout le monde ne digère pas très
alors
bien.
Alors que nous, dans le sud, l'ail, on en mange. C'est des bonbons, quoi. Voilà, on mange que de l'ail partout.
Et alors, l'idée des tapas, c'est d'utiliser ce petit caviar d'aubergine qu'on va mettre sur un petit croûton de pain qu'on aura grillé. Et puis, on peut rajouter une crevette, par exemple.
Ouais.
Juste une petite crevette qu'on aura décortiquée. Un petit morceau de jambon, pourquoi pas. Vous savez,
un
jambon
bon
espagnol.
Serrano,
espagnol ou un jambon du sud-ouest aussi, bien sûr. Un petit morceau que vous allez poser par-dessus. Une anchois, pourquoi pas, si on veut donner un caractère un peu plus méditerranéen. Poser une petite anchois là-dessus.
Jean-Paul Veziano,
il ne faut pas la pêcher dans la Seine.
Ah oui, non.
Ça va être en macro autrement. Hein.
Voilà, vous vous amusez à twister. Et puis c'est vrai que vous avez utilisé du cumin, mais on peut utiliser d'autres épices pour aromatiser ce caviar d'aubergine.
Alors vous le faites autrement, vous mettez de la coriandre
fraîche. Moi j'aime bien la coriandre parce que c'est une herbe que j'adore, donc moi j'en mets, mais on n'est pas... franchement, chacun peut partir de cette base et l'aromatiser comme il le veut.
Est-ce que Jaïl Lespère, je vous ai convaincu avec ma recette de caviar d'aubergine?
Oh oui, en plus j'adore l'aubergine.
Ah bah voilà. Ah bah avec l'agneau dont on parlait tout à l'heure, mais c'est...
Par contre, je vous ferai remarquer que vous n'avez toujours pas ouvert les boîtes de pisse saladière et qu'on est quand même un peu resté pour ça. Hein.
Mais est-ce que vous aimez l'oignon? Parce que quand je vais ouvrir la boîte, ça va vraiment sentir l'oignon. Jaïl, on peut ouvrir la boîte?
Oui.
Et vous allez goûter?
Allez, comment?
Bon, alors... Bien grâce, évidemment, vous voyez le... Voilà. Vous avez entendu le waouh. Ouais. Jean-Paul Visano, merci pour cette visite, cette saladière.
Revenez nous voir quand vous voulez.
Il y a un monde en régie. Je ne vous dis pas, je n'ai jamais vu autant de personnes en régie. Si vous pensez que vous allez pouvoir manger un bout de pissaladière, eh bien, on va voir ça. Merci infiniment de votre visite. On était très heureux de vous avoir. Si vous testez les recettes d'Olivier, vous nous faites une photo, vous nous l'envoyez sur Twitter, hein, raté ou pas. Marie, elle nous a envoyé une photo de la soupe de fruits
très
vous nous aviez conseillé, melon pastèque.
Ah ben, magnifique.
La photo est magnifique. Elle nous dit que c'était excellent et très rafraîchissant. Donc, merci beaucoup, Olivier.
Bah, surtout, bravo à elle, parce que
c'était très
envie. Ouais.
Jalil Lesper, c'est à vous qu'on dit un grand, grand merci d'avoir passé ces deux heures avec nous. Je rappelle que vous serez à l'affiche du film de Julien Abraham, Mon frère, ce mercredi. On vous conseille ce film, coup de cœur du Club de l'été. Et c'est un coup de cœur et aussi un coup de poing, tellement ce film est fort. Et puis le 25 septembre, j'espère qu'on en reparlera à cette antenne, on va découvrir votre nouvelle réalisation adaptée d'une pièce de Feydeau, Le Dindon, avec Danny Boone et Guillaume Gallienne, notamment... à l'affiche, hein, parce que vous avez vraiment un casting formidable. Est-ce que vous êtes stressé à la veille, à la fois de la sortie d'un film en tant que comédien et en tant que réalisateur ?
Oui.
Oui.
C'est plus entre nos mains, donc voilà.
Oui, vous sentez un peu dépossédé des œuvres à chaque fois que c'est donné au grand public comme ça ?
Oui, et puis j'adore l'idée de passer à autre chose, en fait. Heureusement que avec l'expérience, on commence à penser à autre chose assez rapidement pour justement... éviter d'être focus que sur nos sorties et du coup on est un peu moins stressé quand même.
Alors puis vous avez un été studio là.
Mais oui, vous partez en tournage
petit peu,
là.
Oui, je vais aller faire à nouveau l'acteur et je suis ravi de le faire aux côtés de Louise Bourgoin et Mélanie Douté.
Bon, on comprend que vous soyez heureux entre ces deux grandes comédiennes.
Bon,
et puis
aussi.
On attend d'en savoir un peu plus donc sur la série documentaire que vous préparez pour une plateforme. Voilà. Mais comme vous ne voulez plus rien nous dire, bah tant pis. Merci infiniment d'avoir passé ces deux heures avec
super,
nous.
Merci.
Vous revenez quand vous voulez
au
micro d'Europe 1 pour évoquer notamment le dindon. L'Ispressac, Olivier Pouls, on va se retrouver demain, même heure, hein, les amis.
Avec plaisir.
Alors demain,
vous cuisinez pas ce soir non pour demain.
Des poivrons à l'huile, je vous ai promis.
Très bien.
Demain, c'est pas une invitée, mais deux qui seront avec nous. Elles s'appellent les Frangines. Elles viennent présenter leur album. Et elles sont pas sœurs, pas de sang en tout cas, mais musicalement oui. Et elles ont assez de folie en elles pour être les invitées du club. Ah. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff en vous souhaitant une très très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain. Nous, on va goûter la pissaladière, le caviar d'aubergine, tout ça. Puis n'oubliez pas qu'il fait la vie. Salut.